Il est pour l'instant 17h19. Nous avons avec nous notre collaborateur régulier, Éric Lantier, chroniqueur politique et social. Bon après-midi, mon cher Éric Lantier.
Bon après-midi, M. Pierre.
Ça va bien?
Ça va bien, mais j'ai une nouvelle exclusive pour vous sur CGMS et CPAM.
Alors, on est tout oui.
Vous savez, il y a des gens qui sont parmi l'auditoire, qui fréquentent, par exemple, des églises, donc qui participent, qui font partie de communautés, si on veut, chrétiennes ou communautés religieuses.
Absolument.
Et plusieurs de ces gens qui adhèrent à des communautés chrétiennes se demandent à quel moment ils vont pouvoir reprendre leur activité dominicale, les rassemblements du dimanche.
Eh bien. Et s'il y a des prêtres qui nous écoutent, des comment on appelle des paroissiens, des responsables d'église, ben ils savent que depuis qu'on a annulé ces rassemblements dominicaux, enfin ces rassemblements, ben il y a pas de recette à l'église.
Ouais, ben il y a certaines églises qui parce que ont été se sont bien organisées, avaient par exemple ont des plateformes électroniques comme la nôtre. Notre église, on diffuse les homélies, les chants, tout est par plateforme électronique et les dons sont reçus électroniquement. Donc ça nous permet pour notre communauté d'assurer les frais de subsistance et on est bien reconnaissant.
Alors, c'est Éric qui est le pasteur de cette église.
Mais je suis un des pasteurs, je suis pas le pasteur principal.
Je savais que Éric n'était pas trop loin avec de si belles idées, mesdames, messieurs. Parce que Éric, il y a un pasteur qui a trouvé une idée lumineuse une fois pour savoir qu'est-ce qui va à Dieu et qu'est-ce qui reste à l'Église? Quand tu reçois l'argent des fidèles, tu envoies ça dans l'air. Ce qui reste en l'air, c'est à Dieu. Ce qui tombe à terre, vient à l'Église.
Alors, elle est bien bonne. Mais ce que je veux vous signaler, c'est que c'est très crédible et c'est une source sûre. Je ne peux pas dévoiler ma source, mais je peux vous dire une chose. C'est que selon les normes des autorités civiles et spécialement de la santé publique, eh bien, ce qu'ils vont établir, c'est qu'ils vont ajuster les normes pour le retour au rassemblement en fonction des normes au retour dans les centres d'achat. Donc, à partir du moment qu'on va permettre aux centres d'achat d'être ouverts, et pour la libre circulation avec certaines règles de distanciation, ben c'est à partir de ce moment-là que les rassemblements dominicaux vont pouvoir avoir libre recours. Donc le gouvernement établit la norme au même niveau pour ces deux entités. Alors dès que vous allez entendre des nouvelles sur les ouvertures des centres d'achat, ça va vouloir dire ouverture des rassemblements à caractère religieux.
Mais suivant quelle logique, je ne comprends pas. Est-ce que c'est les dernières poches poches de résistance, je dirais, ou les dernières institutions qu'on ouvrira dans le cadre du déconfinement? C'est-à-dire les centres d'achat et les églises, parce que moi je n'aime pas le lien. Les églises, c'est pas du commerce, tu vois le lien, église, commerce, en même temps centre d'achat. C'est tendancieux, Éric.
Ben oui, je suis d'accord avec vous. Écoutez, c'est pas moi qui ai établi cette règle-là, et je sais qu'un comité ecclésiastique qui ont voulu négocier avec le gouvernement justement toute la démarche de déconfinement pour pouvoir progressivement avoir un retour à ces rassemblements-là avec des normes, des règles. Mais c'est ce que le gouvernement a mentionné. Le gouvernement a dit non, nous, on vous place sur le même pied d'égalité que les centres d'achat. Et ce que je comprends de la logique, c'est que puisque Il y a beaucoup de gens dans un même lieu, dans un espace restreint. Donc, si on veut, au pied carré, au mètre carré. Et donc, ils se disent, ben, les règles de participation ou de nombre de personnes par lieu de rassemblement sont sensiblement les mêmes. Par exemple, quand la régie de l'incendie vient inspecter le gouvernement, ils vont dire, ben, dans votre local, vous pouvez pas être plus que 150, ou dans votre lieu de rassemblement, vous pouvez pas être plus que 1000, etc. Donc, je crois, ce que j'en comprends, c'est qu'ils se sont basés un peu sur ces règles en disant la présence par bâtiment. Donc, c'est pour ça qu'ils les mettent dans la même catégorie. C'est très administratif. C'est pas logique. C'est administratif.
C'est administratif. D'autant que, Éric, la fonction pour permettre donc à des gens qui s'ennuient à la maison, lorsqu'on s'ennuie, on s'en va dans un centre d'achat, on s'assoit sur un banc, l'autre dirait, on se cale sur un banc et on regarde les passants. Mais à l'église, c'est quand on s'ennuie aussi à la maison, on s'en va à l'église parler à Jésus, alors qu'on aurait pu parler à notre Jésus chez nous aussi. Ça, au moins, on devrait l'apprendre. Hein? Jésus est chez nous, il est partout, Jésus.
Oui, tout à fait, mais c'est le rassemblement, c'est de rencontrer des gens, parce que durant la semaine, on ne rencontre pas toujours des gens à qui on est confortable de parler de Jésus, ou avec des gens qui sont eux-mêmes confortables de parler de Jésus. Mais lorsqu'on va à l'église, on sait que les gens qui sont là ont un intérêt, et un intérêt commun, et ça permet des conversations et des échanges, des dialogues autour de la foi, de la spiritualité, et c'est ça qui rend le rassemblement édifiant.
Et c'est ça qui me tue, Éric.
Oh oui!
Et c'est ça qui me tue, justement. L'histoire qu'on raconte de Jésus, c'est qu'à un moment donné, Jésus a dit à ses apôtres, « Allez à travers le monde prêcher la bonne nouvelle. » Jésus n'a pas dit « Allez rencontrer les petits amis et soyez heureux avec vos petits amis et tous les dimanches sera allez parler des mêmes affaires à des convertis. Hein, » vouloir convertir des convertis, c'est trop facile. Alors qu'il y a tellement de gens qui auraient besoin d'entendre cette bonne parole et pour enfin ces gens-là, comment dirais-je, changent de vie, n'est-ce pas? Et vous vous contentez au contraire à parler à des convertis. Hein? Tu connais cette expression?
Tout à fait.
Hein? Parler à un converti, essayer de convertir un converti, c'est un travail trop facile, pas vrai? Aller confronter le monde des brigands, le monde qui tue, le monde... J'ai déjà vu des prêtres ici à Montréal aller dans des clubs, aller dans des endroits interdits, justement là où on rencontre, où on est susceptible de rencontrer des gens de peu de foi et de peu de morale et de peu de, bon, tout ce qu'on veut, là, et les ramener comme des brebis galeuses à Jésus.
Oui. Définitivement, je suis d'accord avec vous que l'Église de Jésus-Christ a intérêt à aller davantage vers les gens qui, justement, ne sont pas initiés à la foi ou n'ont pas vécu une expérience personnelle avec la personne de Jésus-Christ. Je suis d'accord que au 21e siècle, c'est encore la faiblesse de l'Église dans le monde occidental. Mais néanmoins, moi, je me dis toujours, un n'exclut pas l'autre. Les deux doivent se faire, mais je suis d'accord avec vous que au niveau de aller vers les inconvertis et d'adresser la bonne nouvelle aux inconvertis, c'est à l'heure actuelle la faiblesse de l'Église au sens large et général du terme.
C'est la paresse de l'Église, je dirais, moi.
Oui,
la paresse de l'Église.
Oui, tout à fait.
Parce qu'il faut, pour faire œuvre qui vaille, ben, il faut, comment se donner un certain mal, n'est-ce pas? Et souvent, l'exemple de Jésus n'a pas toujours été bien reçu, pas l'exemple, mais Jésus lui-même sur terre n'a pas toujours été bien reçu, pas vrai? Alors, et même la crucifixion, c'est le discours, faut pas avoir peur d'avoir un discours qui détonne, n'est-ce pas? Et si on est certain de ce qu'on veut et que Jésus reviendra bientôt, ça là, j'ai de la misère. Ça, faudra justement qu'Éric me parle plus souvent du retour de Jésus sur terre, bien, Éric, pour m'en convaincre. Tu vois, ça serait un bon travail à faire, Éric. Je crois en Dieu. Ça, je crois. Mais que Jésus revienne dans... Ça fait 2000 ans qu'on l'attend, et puis on nous dit qu'il faudrait attendre un autre 2000 ans. Mais de temps en temps, on dit, mais de ce demain, c'est un signe annonciateur. Jésus revient demain. Quand même, là, vraiment, il vaut mieux aller dans le centre d'achat pour voir Jésus, parce que c'est pas vrai, là. Pas vrai, pas sûr, là. Et lorsque Éric me dit, mesdames, messieurs, vous comprenez qu'il n'est pas trop sûr de ça. Donc, plus là, Éric, au Dieu.
Non, mais je vous suis, je vous écoute, parce que c'est important. Moi, je considère qu'il y a trop de chrétiens qui arrivent avec des réponses faciles, toutes faites.
Ouais.
Et moi, je crois que dans un dialogue, dans une discussion, c'est important de comprendre quel est le questionnement de l'interlocuteur. Et moi, je comprends où est-ce que vous voulez en venir. D'une part, il y a la foi. D'autre part, il y a le mystère. Et aussi, Jésus, dans ses prophéties, il a dit que son retour serait imminent. Donc, il ne sait ni lui-même, ni l'heure, ni la date, ni le jour. Et son retour, c'est justement pour
la faiblesse de l'argument. La faiblesse de l'argumentaire, Jésus est Dieu, hein? Jésus c'est l'homme-dieu, pas vrai? C'est un être omniscient, il sait tout, c'est tout. Alors s'il ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir là, Jésus aurait menti. Oh, Jésus ne peut pas avoir menti, pas vrai?
Non, mais là, écoutez-moi bien, là c'est Jésus dans son humanité, il était limité à ce qu'un être humain pouvait faire. Il n'avait pas l'omniscience totale en étant être humain. C'est pour ça qu'il disait, je ne peux pas rien faire tant que je ne l'ai pas vu ou entendu de mon Père. Donc, il était toujours à l'écoute du Saint-Esprit parce que, en tant qu'être humain, il était limité. Par exemple, même s'il était Dieu, il ne pouvait pas manger 100 livres de bœuf sans avoir mal au ventre. C'est impossible. Parce qu'il était 100% homme. Ça qui est le grand mystère de ce qu'on appelle en théologie l'union hypostatique.
Depuis, à moins qu'on s'appelle Mesmer, j'ai jamais vu un homme faire changer l'eau en vin. Hein, n'est-ce pas? Et donc, il était plus qu'un homme. Merci, Éric.
Au plaisir.
On s'en reparle. De temps en temps, il faudra que tu essayes de me convertir, savoir que je puisse prêcher que Jésus va revenir demain, après-demain. Jésus existe, Dieu existe, mais prêcher ça là. Merci beaucoup, mon cher ami Éric Lantier, chroniqueur politique et social. Merci.
Au plaisir.
Merci, au revoir.